Donc pour ce deuxième séminaire consacré à la question des hybridations, on a le plaisir de recevoir Anna Tariel de Vidas, qui est une américaniste. J'emploie le terme à dessein parce qu'elle a d'abord travaillé dans les Andes sur la question de la patrimonialisation des textiles, et ensuite au Mexique, chez les Ténèques, de la Huastec mexicaine, et plus récemment chez les Nahua, qui sont des voisins des Ténèques. Et dans tous les cas, elle s'est intéressée aux transformations profondes que ces sociétés ont subies au cours des, en fait, non seulement des dernières décennies, mais des derniers siècles, puisque par contraste avec le cas qui nous avait été présenté lors de la dernière séance du séminaire, celui des Barouya de Nouvelle-Guinée, le contact n'a pas lieu depuis 50 ans, mais depuis 5 siècles. Et donc les formes d'encadrement, à la fois d'ailleurs précoloniales, dans les Andes et au Mexique, encore que les Ténèques étaient moins concernés par ça que dans les hautes terres du plateau central du Mexique et puis dans les Andes, les formes d'encadrement, d'abord précoloniales puis coloniales, ont profondément bouleversé, bien évidemment, ces sociétés. Mais ce qui se passe depuis quelques décennies est aussi très notable, en ce sens que des formes d'encadrement de la main-d'œuvre, des formes de colonisation de l'imaginaire, pour reprendre la formule de Serge Kuczynski, qui s'étaient déployées pendant plusieurs siècles, ont tout d'un coup connu une accélération et ont abouti à des formes de... En tout cas, un sentiment de dépossession culturelle, et c'est un peu, c'est beaucoup sur ces questions qu'Anna Tariel de Vidas a travaillé au cours des dernières décennies. Donc, elle a publié plusieurs livres, en particulier une très belle monographie qui s'appelle Le tonnerre n'habite plus ici, qui est une monographie sur les Ténèques de la Huastec, et qui est une belle, très belle description, au fond, de ce sentiment de dépossession. Je te laisse la parole sans plus attendre.
Ok, donc merci Philippe de me donner justement l'occasion de présenter mes derniers travaux qui portent sur une thématique qui rejoint donc tout à fait le sujet de ce séminaire. Et avec peut-être cette particularité que je m'intéresse plutôt, comme vient d'être dit, à des Indiens qui ne vivent pas au fin fond de la forêt. Et donc, il s'agit plutôt de collectifs indiens, paysans, au Mexique notamment, qui ont, comme vient d'être dit, expérimenté donc un contact durable avec des populations non indienne, et ce depuis la conquête espagnole au XVIe siècle. Donc on a une profondeur historique de cinq siècles de rencontres, comme on le disait avec un certain euphémisme quand on célébrait les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Et cette profondeur est tout à fait particulière et spécifique au continent américain. On ne trouve pas une telle profondeur ailleurs. Et spécifiquement pour les populations paysannes des hautes terres. C'est beaucoup moins notable pour les basses terres amazoniennes. Il y a toujours eu un contact, mais de manière beaucoup plus sporadique. Et les quelques centaines de groupes linguistiques qui existaient à la veille de la conquête du Mexique se sont réduits à environ une soixantaine aujourd'hui. Ils sont tous christianisés, tous bilingues. Et ces groupes indiens sont donc intégrés depuis très longtemps dans des structures sociales et politiques qui les dépassent. Et leurs pratiques culturelles et religieuses se trouvent donc en étroite relation avec celles qui prévalent dans la société hégémonique. Donc la société non indienne avec qui ils sont en contact permanent. Et pourtant, on observe au sein de ces groupes une certaine éthique singulière, pour reprendre un terme de Philippe Descola, qui les distingue des populations non indiennes, donc encore après 500 ans de contact. Et d'où un intérêt général dans les travaux historiques et anthropologiques portant sur ces sociétés pour justement des questions de métissage, syncrétisme religieux, hybridité. Et tous ces termes partent d'un constat d'hétérogénéité pour désigner depuis l'extérieur des pratiques religieuses et sociales qui sont constituées par des processus d'agrégation d'éléments d'origine native et étrangère, donc dans le contexte amérindien mexicain, d'origine préhispanique et chrétienne. Or, si on s'arrête à ce constat ou à ce décompte extérieur à la société étudiée, de ce qui a perduré en se mélangeant ou de ce qui s'est perdu, sans analyser le mécanisme interne de ces processus, on procède finalement à partir d'un principe essentialiste de fusion destructrice, progressive, des ensembles culturels amérindiens incorporés dans une culture et société autre. Une autre manière de s'intéresser à ces questions consiste à vérifier plutôt ce qu'on en pense et ce qu'on en fait au sein même des sociétés amérindiennes concernées. Et par exemple, José Antonio Kelly, dans un ouvrage récent, aborde ces questions depuis cet angle interne en employant le terme d'anti-métissage. Donc, pour ce terme pour désigner des logiques propres aux groupes amérindiens qui relèvent plutôt de l'incorporation d'éléments d'origine extérieure dans des structures culturelles spécifiquement internes. Et c'est donc dans cet esprit que je vais vous présenter mes données ethnographiques qui proviennent d'un groupe indien Nahua au Mexique, mais cette fois-ci en empruntant aux propres acteurs sociaux un terme qu'ils emploient pour désigner explicitement ces mélanges. Et il s'agit du terme « combinage », dit en espagnol, donc « combiné ». Alors tout ça est parti d'une phrase qui disait « Nous autres, nous savons combiner ». Donc c'était une explication que m'a donnée un habitant du village Nahua de la Esperanza, au nord-est du Mexique, au sujet d'un rite de guérison que j'observais pour la première fois en 2004, quand j'ai commencé à travailler dans ce village. Et je constatais qu'à la fin de ce rituel, les gens mangeaient l'offrande qui avait été déposée aux esprits de la terre. Et ce détail a attiré mon attention parce que entre les Ténèques de la même région avec qui j'avais travaillé auparavant et qui pratiquaient le même genre de rituel de guérison, chez les Ténèques, on ne consommait pas les offrandes déposées, on les laissait dans la nature. Et donc, à la fin du rituel Nahua, j'ai exprimé ouvertement ma surprise en disant aux gens qu'entre les Ténèques, on ne mange pas les offrandes au terme du rituel. Et c'est alors qu'on m'a dit, entre choses pas très gentilles pour les Ténèques, mais entre autres, on m'a dit donc que les Nahua savent combiner, alors que les Ténèques ne le savent pas. Et dans ce même échange, on me dit aussi que les Nahua savent convivir, donc co-vivre ou cohabiter ou coexister. Car, donc on me disait, contrairement aux Ténèques, eux, les Nahua, destinent leur rituel de manière concomitante au maître de la terre, tout comme aux saints catholiques. Donc ce sont des entités auxquelles ils s'adressent explicitement, respectivement et sur les mêmes lieux, en langue nahuatl et en espagnol. Alors, il s'agit en effet d'une pratique différente de celle des Ténèques voisins qui, eux, s'adressent en langue Ténèque aux êtres de la terre quand ils se trouvent dans l'espace de la nature et en espagnol aux saints catholiques quand ils se trouvent dans l'espace domestique. J'ai donc trouvé que ce terme combiné était très intéressant car il exprimait une façon locale de se référer à ce qu'on appelle communément, dans notre jargon, le syncrétisme religieux ou encore les phénomènes d'hybridité. Mais contrairement à ces substantifs, donc de termes savants, qui ne font finalement que constater un état de fait, d'agrégation d'éléments d'origine distincte, mes interlocuteurs avaient employé plutôt un verbe, hein, donc combiné. Et donc, dans le cas des offrandes autour desquelles ce terme avait surgi, il s'agissait de désigner une action explicite d'assembler, d'organiser et de disposer ce qui avait été classé avant séparément. Et dans le même contexte d'énonciation, mes interlocuteurs avaient rapproché le terme de combinage à celui de convivige, hein, donc coexister, cohabiter. Ils disaient « nous, on sait combiner, nous, on sait co-vivre ». Et du coup, je pouvais légitimement, c'est-à-dire sur une base ethnographique, sonder les liens entre la nature des acteurs sociaux avec qui on coexiste et ces modes de coexistence. Et en d'autres termes, je me posais la question de l'interrelation entre ces deux concepts suggérés localement de combinage et de convivige. Et comment cette interrelation s'exprimerait-elle dans les pratiques ? Donc voilà les deux grandes questions que j'essaierai de sonder avec vous aujourd'hui et qui devraient aboutir, si tout se passe bien, à la démonstration de l'éthique singulière qui les sous-tend. Alors, pour nous situer, je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années dans la région de la Huasteque Veracruzaine, au nord-est du Mexique. Plus particulièrement, je mène mes enquêtes dans le district de Tantoyuca, qui est situé dans la plaine côtière de cette région du golfe du Mexique. Le climat est tropical humide. On est à 360 km de Mexico, la capitale fédérale, et à 600 km de la frontière avec les États-Unis. C'est une région multiethnique où cohabitent des populations métisses et indiennes, plus ou moins moitié-moitié. Les groupes indiens, ce sont les Ténèques et les Nahua, ils habitent pour la plupart dans les villages autour du chef-lieu de Tantoyuca, où réside la population métisse, non indienne, ou encore aussi des individus qui sont issus des villages autochtones et qui ont émigré en ville. J'ai d'abord travaillé, comme il a été dit, avec un groupe indien, Ténèc, et puis actuellement, et ce depuis 13 ans, avec un groupe indien Nahua, duquel je vais vous parler aujourd'hui. Alors, un peu de vie quotidienne. La population du hameau Nahua de La Esperanza compte 154 habitants, donc c'est une toute petite localité. Ils sont distribués entre 46 foyers. Les adultes de plus de 50 ans sont de manière générale bilingues, donc ils parlent le nahuatl et l'espagnol. Mais actuellement, on ne parle aux enfants qu'en espagnol. Et la plupart des gens, sauf les vieux, parlent entre eux uniquement en espagnol. Donc c'est vraiment la langue quotidienne au village. Et les terres du village relèvent du statut agraire des biens communaux. C'est-à-dire que même si elles sont divisées en parcelles individuelles, elles restent la propriété collective de l'ensemble des villageois et elles ne peuvent être transférées qu'entre eux-mêmes. Et ce système de possession collective, typiquement indien dans ces contrées, comporte certains droits et obligations, notamment celle de fournir la faena, ou le tekit en nahuatl, qui veut dire le travail hebdomadaire gratuit que doit chaque habitant au bénéfice de la communauté. Donc il s'agit de l'entretien des voies publiques, des services communs tels que l'école, le puits, la chapelle. Alors je reviendrai plus tard sur cette notion de tekit. Et sur le plan économique, la plupart des habitants se consacrent à l'agriculture de subsistance, donc culture du maïs et haricots, et un peu à l'élevage bovin. Alors la tendance chez les jeunes est de partir vers la frontière états-unienne pour y travailler dans les usines d'assemblage, qu'on appelle maquiladoras. Et donc les vieux disent que les jeunes ne veulent plus travailler au soleil, c'est le terme qui revient. Et certains jeunes, peu nombreux, accèdent aujourd'hui aussi à des études supérieures qui leur permettent d'obtenir des emplois plus professionnalisés. Parallèlement à un processus de modernisation qui induit des transformations matérielles et structurelles dans le mode de vie local, les habitants de La Esperanza restent fortement attachés à leurs pratiques religieuses spécifiques, vouées aux maîtres de la terre, aux âmes des morts ou encore aux éléments du relief. Et ces pratiques s'effectuent tout au long de l'année, en marge de la liturgie catholique, sans pour autant s'en écarter, en tout cas pas du point de vue des participants. Et ainsi, outre les fêtes civiles et celles qui sont liées au calendrier liturgique chrétien, la vie quotidienne des habitants de La Esperanza est marquée par une série de rituels en lien avec les esprits de la terre et qui, pour cette raison, sont nommés trabajos, travail. Ils se déroulent à différents niveaux, individuels, familial et communautaire. Sur le plan individuel, il s'agit de rites de guérison, de rites de passage, donc rites de naissance et de décès qui s'ajoutent au rituel catholique, et les promesses qui sont faites par les guérisseurs, c'est-à-dire le pacte qui les lie avec l'entité de la montagne proche. Et cette montagne leur donne les pouvoirs curatifs, et donc ça comporte des offrandes au sommet par les propres guérisseurs pour continuer leurs promesses, donc au sommet une fois par an. Sur le plan familial, il s'agit des offrandes à la milpa, qui est le champ de maïs, au pré et à la maison, au début de l'année civile. Et à ce moment-là, on fait aussi, pour ceux qui en ont, des offrandes au moulin ou au four. Donc ce sont des moyens de subsistance aussi. C'est encore au niveau familial qu'on fait l'offrande du maïs nouveau aux récoltes en automne et les offrandes aux âmes des défunts en novembre. Et sur le plan communautaire, il s'agit de l'offrande collective à la montagne une fois par an, au puits principal, afin qu'il ne tarisse pas à la saison sèche, donc c'est en mai-juin. Et évidemment, la fête patronale du 15 août, qui mobilise tous les habitants, y compris les émigrants, qui reviennent pour cette occasion. Et pendant cette fête, outre le culte à la Vierge Mère, on peut observer des offrandes opulentes à la terre. Donc là, on voit le rite à la montagne. Et dans tous ces rites, donc ils sont spécifiquement à la montagne ou les autres rites que j'ai décrits, ils ont plus ou moins la même structure, donc qu'ils soient pratiqués dans la montagne, dans les prés, à la chapelle ou dans les maisons. Et dans tous ces rites, l'entité de la montagne est toujours invoquée et vénérée, parce que, selon les habitants, c'est au sommet de celle-ci que s'est produit le miracle de l'apparition du maïs après plusieurs années de sécheresse. Alors c'est un fait intéressant, car dans ce village, on réalise beaucoup de rites, mais on ne raconte aucun mythe, hein, sauf un, qui est plutôt un récit historique d'un miracle. Alors de quoi s'agit-il ? Donc, selon ce qui m'a été dit au village, ce miracle s'est produit en 1950, précisément, alors qu'une sécheresse terrible s'était abattue sur toute la région. Et c'est alors qu'un personnage arriva au village. C'était un ancien, un sage, un homme-dieu, selon certains. Il était originaire d'un village voisin, situé à environ 15 kilomètres de La Esperanza. Et cet homme, qui a un nom, Antonio Morales, avait établi que pour faire revenir les pluies, il fallait effectuer une grande offrande au sommet de la montagne proche du village. Donc les habitants qui étaient accablés par plusieurs années consécutives de sécheresse se sont sentis encouragés par ces exhortations et ils ont donc apporté des offrandes au sommet de la montagne et aussi des danses, de la musique, qui ont été enseignées par cet homme. Et subitement, il se mit à tomber du ciel une pluie d'épis de maïs. Et donc par la suite, accompagnés par la musique et les danses, les gens ont emporté ces épis en bas de la montagne, dans le lieu où ils se réunissaient pour prier. Et depuis lors, tous les ans, à la fin de la saison sèche ou au début de la saison des pluies, les habitants de la Esperanza montent au sommet de cette montagne pour y déposer des offrandes. Et c'est fait pour que les pluies tombent et que les récoltes de maïs soient satisfaisantes. Et à partir de ce moment, selon le récit, se sont développés au village la musique, les danses, ainsi que tous les rites que j'ai évoqués. Alors, pour comprendre ce récit, j'ai fait parler les gens et les archives, hein, ce qui m'a permis d'établir une relation entre une catastrophe naturelle, une crise culturelle et les mécanismes sociaux qui ont été mis en œuvre pour y faire face. Alors, je vais essayer de résumer cela brièvement. Il y a eu en effet une grave sécheresse dans la région qui s'est abattue dès 1940 et qui a duré jusqu'en 1951. Et c'est donc durant cette période que nombre d'individus ont dû partir du village pour trouver du travail et se procurer du maïs. Et c'est à ce moment-là que les vieux d'aujourd'hui situent leur apprentissage de la langue espagnole. Et aussi, surtout, aussi, leur confrontation directe avec le monde métis, non-indien. Il raconte par exemple que les riches, c'est-à-dire les non-indiens de la région, ont profité de la pénurie pour vendre aux gens de la Esperanza leur surplus de maïs à des prix exorbitants. C'est quelque chose qui me rappelle souvent, donc c'est quelque chose qui a été très fort pour eux. Et par ailleurs, cette longue sécheresse s'est produite de manière simultanée avec deux processus déterminants pour l'histoire régionale, sur le plan historique et religieux. Du point de vue politique, cette période voit le début de la modernisation de cette région rurale, qui était jusqu'alors très reculée, à travers l'établissement progressif de la présence de l'État. Donc post-révolutionnaire. Cela s'est fait à travers la scolarisation des enfants, uniquement en espagnol, avec interdiction formelle de parler en nahuatl, l'ouverture de routes et ce que cela implique comme nouvelle circulation d'hommes et de marchandises, et la réforme agraire qui a notamment reconnu la localité de la Esperanza, qui avant n'existait pas officiellement, et la doter de terres et donc d'un pouvoir politique officiel. L'autre processus déterminant s'est passé sur le plan religieux. Dans les années 50, on observe en effet le retour progressif dans la région du clergé, après une désaffectation depuis en fait le XVIIIe siècle, et qui a été accru encore suite à la politique anticléricale du gouvernement post-révolutionnaire. Et selon des témoignages locaux, lors du retour du clergé dans la région, les prêtres auraient déclaré que la religion indienne locale était, je cite, « l'œuvre du diable ». Et ils ont cherché à épurer le catholicisme local, qui s'était développé donc loin de leur regard pendant un certain temps, et les curés n'hésitaient pas, comme au temps de l'Inquisition, à organiser des autodafés de figurines de cultes indigènes qui représentaient le maïs. Donc on est dans les années 50. Et un vieux qui me racontait ces histoires me disait, je le cite, « Eux, les curés, ils avaient leur religion, et nous, donc les Indiens, la nôtre ». Et donc, il s'agit là d'une relation de défiance qui existe encore aujourd'hui entre l'Église locale et les populations indiennes. Et par exemple, en 2004, lorsque j'accompagnais pour la première fois, pour moi, les gens du village pour célébrer le rite au sommet de la montagne, on me demandait de, on demanda de ne pas aller raconter au curé de la ville ce que j'ai pu observer au sommet de la montagne. Donc, la création du rite au sommet de la montagne, de la Esperanza, semble avoir plusieurs arrière-plans, climatiques, ecclésiastiques, interethniques et agraires. Alors, il reste à évoquer aussi, quand même, l'arrière-plan symbolique. Le récit du miracle dans la montagne de la Esperanza semble en effet renvoyer à un mythe méso-américain très connu et décliné en maintes variantes à travers toute cette ère culturelle et qui concerne l'origine du maïs qui a été obtenu dans une montagne, à travers d'éléments, le tonnerre entre autres. Mais au village, rien n'a été dit sur ce point. Donc ça, c'est ma propre interprétation. Alors, quoi qu'il en soit, la sacralisation de la montagne de la Esperanza semble avoir couronné culturellement une suite d'événements fondateurs de cette localité. Donc l'ouverture au monde extra-communautaire, l'apprentissage de l'espagnol, une reprise d'un contact ambivalent avec l'Église et la reconnaissance par l'État des limites précises de la localité et de l'intégration de celle-ci dans des structures étatiques plus vastes. Et ce moment de crise sociale et économique des années 50, qui a marqué une rupture avec le passé, mais aussi un nouveau départ, plus institutionnalisé, aurait donc induit une production culturelle porteuse d'identification collective locale. Et la sacralisation de la montagne semble avoir servi non seulement à faire venir la pluie et le maïs, mais aussi à la construction symbolique de l'espace communautaire en pleine mutation. Alors, on va revenir maintenant au rite qui jalonne aujourd'hui la vie locale de la Esperanza et qui sont tous motivés par une croyance profonde dans le rôle de la terre et ses différentes entités en relation au bien-être et au destin des êtres humains en tant qu'individus ou comme faisant partie d'une collectivité qui partage une terre commune. Alors on va regarder de plus près le fonctionnement des rituels de guérison. Ces rituels se fondent sur une conviction selon laquelle la Terre est peuplée par les Tepas, c'est des êtres pré-solaires ou pré-humains, qui sont les maîtres ou les gardiens de la Terre. Et si les humains commettent un écart, ces Tepas leur renvoient des maladies sous forme d'effroi, qui fait perdre une partie de l'âme et qui déséquilibre l'organisme. Alors, pour récupérer l'âme perdue, on fait des purifications thérapeutiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle localement les limpias, et c'est-à-dire selon la situation, le guérisseur va effleurer le corps du patient avec du feuillage, un œuf ou une poule, ou avec des bougies. Et donc, il va faire ça dans la maison, face à l'autel domestique, où siègent les images catholiques. Et on va ensuite dans le fourré, ce qu'on appelle le monte, pour déposer une offrande aux êtres de la terre. Et pour pacifier les Tepas, maîtres de la terre, on leur offre un coq et une poule, qu'on a d'abord employé donc pour les purifications thérapeutiques. Et ces volatiles doivent provenir du village, c'est-à-dire de la basse-cour, et non d'un élevage en batterie qui provient de l'extérieur. Donc on a un petit principe d'autochtonie ici. Et ces volatiles sont plumés par la suite et sont préparés avec une sauce et des condiments pour en faire des grands tamales. Les tamales, c'est des boules de pâte de maïs qu'on fourre de viande et on va cuire à l'étuvée dans des feuilles de bananier. Et avant de préparer les éléments de l'offrande, ou avant de les emporter dans le monte, dans le fourré, on les dépose, on les présente toujours sur le sol, devant l'autel domestique, où se trouvent les images des saints catholiques. Et dans tous ces rites, on observe le même type d'arrangement spatial dual entre le haut et le bas, donc on a l'autel domestique et le sol devant l'autel, ainsi que le même ordre et agencement structuré des éléments de l'offrande. On a toujours de l'eau et des fleurs, des bougies de paraffine qui sont destinées aux saints catholiques, et des bougies de sebo, qui est un mélange de suif et de stéarine. Et ces bougies-là sont destinées à la terre. On a toujours au moins 4 grands tamales qui contiennent chacun respectivement les moitiés de la poule et les moitiés du coq sacrifiés pour ce rituel. On a des fruits et légumes cuits qui proviennent des terres du village. Donc, souvent, on a des cristaux fines, des bananes plantains, des courges, manioc, patates douces. Et aussi toujours des produits transformés ou manufacturés qu'on obtient en ville. Du café, du pain, des biscuits, du tabac, des cigarettes, de l'eau de vie, de la bière, des sodas et de l'encens. Et tous ces éléments composent l'offrande, mais ils y sont déposés séparément. On ne mélange pas tout. Alors il y a là un principe de fusion dans un seul espace rituel, d'éléments d'origine diverse et considérés comme tels, mais qui sont toutefois distingués selon leur provenance et aussi leur destinataire. Les saints, me dit-on, sont nourris par les prières, l'encens et les flammes des bougies de paraffine. Ils exigent comme culte des veillées, des messes et des dévotions, alors que les tepas sont considérés plus gloutons. On leur propose alors des festins qui reprennent les menus des repas festifs des humains, donc les grands tamales, considérés comme une nourriture locale typique, très appréciée, de la bière, de l'eau de vie, du tabac et des douceurs. Et alors, les mets exquis qui ont été déposés dans l'offrande sont finalement partagés entre humains et êtres de la terre, car à la fin du rituel, toute cette offrande est consommée par les participants, qui sont des parents et voisins invités à accompagner, dans ce cas, qui est un rite de guérison, ce qu'on voit dans la photo, qui donc ont accompagné le patient dans le monte, dans le fourré. Et on a donc un principe de convivialité à travers la commensalité. Et on me dit, les tepas sont comme nous, ils aiment la bonne nourriture. Et il faut dire que le terme convivir, donc co-vivre, dans sa traduction en nahuatl, se dit senticatutlacuatze, qui veut dire manger ensemble. C'est-à-dire convivre, ça veut dire toujours manger ensemble. C'est pas seulement coexister. Alors, non seulement les mets de l'offrande sont déposés de manière duale, mais les offrandes se déroulent toujours en binôme. C'est-à-dire, dans un premier temps, dans la maison du patient, face à l'autel domestique, où se trouvent donc les images saintes catholiques, mais où on dépose aussi des mets pour la terre sur le sol devant l'autel. Et dans un deuxième temps complémentaire, aussi dans l'espace du monte, du fourré, qui peut se trouver donc au sommet de la montagne, sur un chemin, dans le pré, etc., donc selon le rituel. Et là, on déposera des mets pour la terre, mais on va aussi déposer de manière momentanée aussi une petite croix et une petite image sainte. Et un guérisseur me disait que le dépôt des offrandes dans deux endroits permet la communication entre les lieux, domestiques et extérieurs, ainsi qu'entre les différentes entités sollicitées, et que c'est ça qui va permettre la réussite du rituel. Et par ailleurs, et pour la même raison, les spécialistes rituels parlent alternativement l'espagnol et le nahuatl pour communiquer avec les êtres de la terre, tout comme avec les saints catholiques, et ceci dans les deux lieux, l'espace domestique et celui de la nature. On observe donc dans ces rituels nahua une manière d'y combiner ou d'assembler des horizons temporels et religieux différents. Et bien que chaque type d'entité surnaturelle ait un espace qui lui soit propre, donc l'autel domestique pour les saints catholiques et l'espace de la nature pour les tepas, il existe, comme on a vu, une interpénétration entre eux. Et l'un des spécialistes rituels de la Esperanza, il y en a trois, qui est aussi catéchiste, donc représentant de l'Église, le représentant local de l'Église, il m'a expliqué cette affaire de manière très explicite. Je le cite. « Nous nous adressons au Père Dieu et aussi au Tepas, parce que nous sommes indigènes. » On ne peut pas être plus explicite que ça. Et en outre, les spécialistes rituels de la Esperanza commentent les pratiques syncrétiques décrites pour ces rites de guérison en précisant qu'elles sont faites tout à fait en accord avec la théologie catholique qui indique, je cite, « le Père Dieu est sur la terre comme au ciel ». Et selon l'exégèse suggérée par quelques habitants, les différentes composantes de l'offrande seraient organisées en, ils appellent ça les tres capas, donc trois couches ou niveaux, et cela pour faire réunir en un seul lieu le monde souterrain, mondain et céleste. On pourrait donc avancer que la rencontre avec les maîtres de la terre à travers l'offrande ne sert pas tant à souligner une frontière entre les espaces chtoniens et mondains, ou encore entre les pratiques chrétiennes et païennes. Il s'agirait plutôt d'un mécanisme intégratif pour un temps spécifique, qui, le temps du rituel, qui marquerait par la commensalité la coexistence ou la cohabitation désirée entre les trois couches, hein, c'est-à-dire entre les humains et les êtres non humains du ciel et de la terre, desquels dépend le bien-être des premiers, des humains. Et quand on me disait que les Nahua savent combiner, on se référait sans doute à ce principe de composition et d'assemblage rituel. Mais au-delà de ce qu'on appelle communément le syncrétisme religieux, quelle serait la motivation de fusionner dans un seul rituel et dans un seul espace ces éléments d'horizon religieux et temporel distincts et distingués? Donc, pour comprendre le fonctionnement de ces pratiques, il est important de souligner que les spécialistes rituels considèrent qu'en déposant les offrandes, ils travaillent avec les entités non humaines environnantes. Et il ne s'agit pas donc d'un face-à-face, hein, d'une confrontation. Alors, rappelons que les offrandes à la terre sont appelées localement un trabajo, un travail. Donc, et le terme est fourni en espagnol. Et cette précision est fondamentale pour continuer l'analyse du terme local combinar, parce que le concept local de travail fournit la clé de lecture pour comprendre ce qu'on pourrait appeler, même si ce n'est pas très joli comme terme, le combinarisme ou cette approche locale combinariste. Et en effet, à la Esperanza, tout comme en milieu nahua en général, Alors, je ne l'ai pas dit, mais les Nahuas, c'est le groupe majoritaire indien au Mexique. Il s'agit d'environ 1 200 000 de personnes à travers tout le Mexique. Et donc, en milieu Nahua en général, mais aussi auprès d'autres groupes indiens mésoaméricains, la notion de travail, en Nahua, donc on dit tekitl, donc un premier sens serait le travail, la corvée, l'emploi, une charge, une obligation, une fonction. Donc cette notion fait référence non seulement à ce qui concerne la production matérielle pour la subsistance, donc le travail agricole, la fabrication, la main-d'œuvre ou le travail salarié, ou pour obtenir un gain pécuniaire, donc soit ce qui est opposé au loisir, hein, selon le sens occidental. Donc ce terme fait aussi référence, comme le soulignait Marie-Noëlle Chamou, à des activités sociales et symboliques. Et la notion nahua de tekitl, de travail, semble en effet concaténer de manière intrinsèque différentes qualités. On a donc le labeur physique, donc destiné à la subsistance. On a l'activité de fabrication ou de transformation, et on a l'action de mise en mouvement. Donc ça, c'est très important de retenir. Et toute relation sociale à la Esperanza consiste en effet à faire travailler conjointement les parties impliquées, qu'elles soient humaines ou non. Parce que le tekilt est étroitement lié à la notion de chikawatsli, qui veut dire la force, l'effort, la détermination et ou le courage. Et donc là, il s'agit, pour la question de la force, de la qualité intrinsèque d'un être en termes de compétences, de facultés, de dons, de talents. Et toutes ces facultés peuvent être mises en mouvement seulement lorsque celui-ci est engagé dans une relation avec un autre. Alors j'ai fait un petit schéma pour essayer de comprendre ça. Et donc cette relation donc entre labeur, activité et l'action de la mise en marche qui passe par la relation sociale. Et c'est donc un système qui combine être et faire. Et ce mouvement assure largement l'intégration sociale et son fonctionnement. Et la valeur locale du travail réside ainsi dans l'expansion de soi à travers des liens d'interdépendance. Et le travail est donc à la fois dépendant de la qualité, don ou force de chacun, mais aussi de la relation sociale qui le met en marche. Et le travail, dans le sens large, est considéré alors de cette manière comme une relation sociale activée par la circulation de forces propres à chacun. Et la faena, donc la corvée communautaire que j'avais évoquée au début, donc elle est appelée tekitl en nahuatl, donc travail, mais il faut maintenant l'entendre dans le sens large. Exprime donc cette corvée, la faena, exprime donc bien cette idée de force conjointe qui garantissent dans ce cas l'accès à la terre communale, donc source de vie, force conjointe sans lesquelles il n'y aurait pas de vie communautaire. Et cette notion s'applique également aux pratiques solidaires liées au compadrazgo, donc la parenté spirituelle. Et tout d'abord à la reproduction domestique. Par exemple, lorsqu'un couple est harmonieux, on dit des conjoints qu'ils travaillent bien ensemble, ce qui veut dire que les époux investissent au sein de leur unité domestique du travail et ils font circuler des efforts ou leurs forces, chikawalitsli. Et ils font circuler ça à travers leur échange réciproque. Et une femme d'environ 70 ans, qui fêtait son 50e anniversaire de mariage, me parlait de toutes ces années de travail avec son mari. Alors, je rappelle que la maison, donc l'unité domestique où se produit ce travail mutuel, est le lieu d'où partent et où reviennent les parcours rituels que j'ai décrits. Et on comprend dès lors que la notion de travail soutient aussi l'ordre cosmique, donc en particulier à travers les offrandes à la Terre, qui sont appelées, je le rappelle, travail. Et une femme expliquait cet échange, qui est donc de nature existentielle, parce qu'il garantit l'existence de ceux qui accomplissent le rituel. Elle me disait: nous donnons à manger à la terre parce que c'est la terre qui nous donne à manger. Tout vient de la terre, elle nous donne la vie, c'est la vie. C'est-à-dire le travail conjoint qui met en mouvement la vie. Et le travail de toute entité humaine et non humaine, accompli au moyen de l'effort individuel et de l'échange constant de ses forces, consiste donc en ce qui maintient réciproquement le fonctionnement des relations sociales et donc le fonctionnement du monde. L'activation du travail-force, qui exprime donc la notion locale des relations sociales, s'applique ainsi dans les pratiques rituelles à la Esperanza, en intégrant les entités non humaines dans la sphère du social. Autrement dit, la notion locale de travail-force consiste à étendre au non-humain le système local du lien social. Alors, il faut souligner à ce propos que cette question des offrandes, qui sont donc un travail de mise en mouvement conjoint de forces humaines et non-humaines, ces offrandes sont au cœur de l'identité ethnique des gens de la Esperanza, ou en tout cas de leur manière de voir la différence entre eux et les non-indiens environnants. Et je cite là les paroles de Tonia, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, et elle me disait « La différence entre les gens métis, donc les non-indiens, et les gens des villages, donc les indiens, se situe surtout autour des rites de guérison, les travaux, donc les rituels à la terre, et les offrandes. Eux, ils disent que c'est de la sorcellerie, mais nous, nous avons la foi. » Et je dirais que là, on voit très bien que le mélange local d'éléments d'horizons religieux distincts n'exprime pas forcément un souhait de devenir un non-indien. Donc, je pense que ça, c'est très important de retenir. Alors, l'acception large du terme nahuatl de travail permet de comprendre non seulement la nature de la relation entre les humains, mais aussi celle qui se tisse entre eux et les autres existants. C'est le travail conjoint, la fusion des dons-forces de chacun, humain et non humain, selon ses compétences, qui va contribuer à la réussite du rituel. Et plus que le don et le contre-don, il s'agirait ici plutôt d'un principe de fusion de dons. C'est donc le don plus don, dans les deux sens du terme, donc d'aptitude et de présent, qui active la communication et la coopération. Et c'est ça qu'on combine. Le travail rituel consiste à combiner les aptitudes des humains avec celles des non-humains, et chacun gagne dans cet échange. J'ai un collègue, Péric Pitrou, qui travaille pas loin au Mexique, enfin à 1000 km au sud. Alors lui, il a une interprétation qui va dans le même sens, mais pas tout à fait, donc c'est intéressant d'échanger avec lui. Parce que lui, Péric Pitrou, a introduit la notion de coactivité, que je trouve très intéressante, sauf que les données ethnographiques qu'il a récoltées lui ont permis de voir cette coactivité à travers tout un principe de mimétisme entre humains et non-humains pour faire travailler les entités non-humaines, donc les les humains mimétisent ce qu'ils souhaitent recevoir de la part des entités non humaines. On a un autre auteur qui s'appelle Roger Magazine qui a travaillé aussi dans ce sens, mais là uniquement au niveau social, il n'y a pas de non humain dans son terrain. Mais bon, donc on a de plus en plus de monographies au Mexique cette idée de la question du travail qui est latente chez les deux auteurs que j'ai mentionnés. Mes données de terrain sont beaucoup plus explicites dans ce sens, donc ce qui me permet donc de développer ce que je vous présente. Voilà, donc il y a toujours, je pense, chez tout le monde, cette idée de tech it qui est déclinée dans différentes langues méso-américaines et qui est mise en avant, oui ou non, par les propres acteurs sociaux. Alors, j'arrive maintenant à la dernière partie de mon exposé pour vous présenter très brièvement comment ces mêmes principes de combiner co-vivre en faisant circuler le travail force de chacun s'appliquent également dans la vie politique et sociale de cette communauté, donc sur le plan collectif. Et on peut voir cela, par exemple, à travers la fête patronale du 15 août, qui est vouée à la Vierge de l'Assomption. Et je vous présenterai un petit film à la fin pour illustrer tout ça. Alors, c'est une fête qui dure 9 jours. Pas seulement le 15 août, mais les 8 jours avant. Il est très complexe, il y a des tas de rituels différents qui s'y déroulent dans des lieux distincts. Il y a le puits, la chapelle, les limites du village, la montagne. Il y a des danses féminines et masculines, il y a de la musique traditionnelle, des fanfares. Tout le monde participe selon ses compétences, donc hommes et femmes, qui sont donc les membres de la communauté. Et les jeunes aussi, qui ne sont pas obligés de travailler tant qu'ils ne sont pas mariés, mais qui participent quand même dans les décorations, dans les danses, ils encensent les offrandes. La fête est régie par deux comités, féminin et masculin. Alors, il n'y a pas dans ce village le système de charge ni de mayordomia, qui sont des systèmes d'organisation sociale traditionnels en Mésoamérique. Mais chacun paye une cotisation et tout le monde participe dans le cadre de la faena, donc le tekit, donc le travail communautaire. Donc pendant les 9 jours, tout le monde doit faire ce travail. Et pendant tout ce temps des 9 jours, les deux catéchistes du village, donc les représentants, enfin qui sont aussi spécialistes rituels, mais qui sont aussi représentants de l'Église, prient à l'intérieur de la chapelle. C'est une expérience très dense, très intense pour tout le monde, y compris pour l'anthropologue qui essaye d'être partout en même temps. Alors j'ai participé à plusieurs fêtes pour commencer à y voir un peu plus clair. Et alors donc de la même manière que les rituels domestiques individuels et familiaux mobilisent le travail des guérisseurs et l'effort de la famille pour faire circuler les forces de tous ceux qui sont impliqués, humains et non humains, donc les trois couches dont on a parlé, céleste, mondaine et souterraine, et tout ça pour le bien-être individuel et familial, donc de la même manière, la fête patronale reproduit le même schéma sur le plan collectif. Et pendant la fête, les gens disent qu'ils ne sont presque pas chez eux, à la maison, puisque, je cite, « tout est suspendu en faveur de la chapelle ». Et donc, si tous les habitants travaillent conjointement et collectivement pour la fête, ils ne travaillent plus au sein de leur unité domestique, mais au sein de la chapelle, qui sert alors de foyer pour tous pendant ces 9 jours. Donc le foyer dans les deux sens du terme, donc la maison, mais aussi dans le sens de focalisation. Et c'est à partir de la chapelle où l'on dépose une offrande au pied de l'autel que se font les rituels trabajos au puits et à la montagne. Donc l'autel de la chapelle servant alors comme point de départ et de retour de ces rituels. Et le même principe de binôme qui se trouve à l'arrière-plan de tous les rites de guérison individuels et familiaux s'amplifie alors sur le plan collectif dans un seul rituel qui est la fête patronale. Et c'est de fait, comme le disent les gens, un trabajo para todos, un travail pour tous. Et c'est-à-dire non seulement beaucoup de travail pour tous les habitants, mais aussi un rite de guérison collectif, propitiatoire, auquel prend part l'ensemble des habitants à travers les comités et le travail obligé de tous. Et le travail harmonieux de tous assure alors le succès de la fête et le bien-être de ses habitants en tant que communauté sociale et politique. C'est quelque chose qui est dit explicitement. Et tout le monde parle pendant ces jours de fête de l'importance de l'unité du village. Et selon les mots de l'un des spécialistes rituels, il disait « Nous sommes tous unis pour ce rituel. Si on n'accomplit pas bien cette tâche, des maladies peuvent survenir. » Et la force en circulation de l'ensemble des habitants lors de la fête patronale est ainsi particulièrement puissante ces jours-là pour se coactiver avec les efforts demandés aux entités non humaines pour l'ensemble de la communauté à qui la fête est collectivement dirigée. Et dans ces cas, ces entités sont la Vierge de l'Assomption, Saint Antoine de Padoue, patron des guérisseurs, tout comme l'Esprit de la Montagne. Et les bienfaits de ce travail collectif, amplifié en puissance 154 habitants, et dans lesquels sont investis de multiples forces, humaines et non humaines, et ce pendant 9 jours, s'applique en même temps aux villages voisins, aux visiteurs et aux membres du village qui ont émigré et de manière générale au monde, à tout le monde. Et ce caractère intégratif de la fête patronale apparaît clairement dans les paroles d'un des spécialistes rituels qui disait, je le cite, « La terre entend, c'est pourquoi nous devons lui offrir cette promesse, ce travail. » La terre entend, mais elle n'écoute pas n'importe qui. Nous parlons d'abord au Seigneur, puis au Tepas. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde. Nous demandons pour tout le monde, pas seulement pour le village. Et on va entendre dans le film un autre commentaire qui va dans le même sens. Et tout le travail collectif et conjoint qui est effectué pendant les 9 jours de la fête converge finalement le 15 août vers une grande offrande au sommet de la montagne. C'est ce qu'on va voir dans le petit film. C'est une offrande qui est alors organisée en binôme avec le culte qui se déroule en même temps dans la chapelle. Les habitants se divisent donc entre ceux qui restent en bas dans la chapelle pour prier auprès de la Vierge de l'Assomption pour le bien-être du village, et ceux qui montent au sommet de la montagne pour déposer une offrande aux esprits de la terre et leur demander la même chose. Et plus tard, une autre offrande de tamales sera déposée au sein même de la chapelle, sur le sol, au pied de l'autel, concluant ainsi la fête. Donc la boucle est bouclée. Et au sujet des offrandes complémentaires de ces grands tamales à la montagne et dans la chapelle, Cayetana, une femme de 80 ans, disait que, je cite, « Pour la montagne, on dépose 2 grands tamales, pour la terre et pour le ciel, et 2 autres pour la chapelle, pour la terre et pour le Seigneur. » Et on voit bien le caractère intégratif de ces offrandes par le dédoublement du travail qui se déploie sur 2 plans, haut et bas, montagne et chapelle, entité chrétienne et autres. Et ces 2 lieux fonctionnent comme des foyers contrastés de pouvoir que le travail des spécialistes rituels fait circuler le temps de la fête. Et par exemple, les pétards qui sont lancés d'en haut quand on arrive au sommet de la montagne informe ceux qui sont restés prier dans la chapelle en bas que l'acte de l'offrande va commencer. Et lorsque la cérémonie en haut est terminée, un autre pétard est lancé depuis le sommet pour avertir ceux qui sont restés en bas que les officiants vont commencer à descendre de la montagne. Et quand les personnes qui étaient au sommet de la montagne reviennent du rituel, ce sont les autorités politiques du village qui viennent les accueillir en fanfare en bas de la montagne. Donc ça montre bien l'aspect aussi politique de l'affaire. Alors les pétards donc lancés du sommet de la montagne sont donc des signes sonores du travail rituel et ils établissent la communication entre les deux travaux efforts qui se font simultanément dans les deux lieux, montagne et chapelle, emplis de pouvoirs de multiples natures dont dépendent le bien-être collectif et la marche de la vie. Et d'ailleurs, on me dit à ce sujet, la chapelle et la montagne, c'est la même chose, on prie en bas alors que les autres montrent et font des offrandes en haut. Alors, je vais commencer à conclure. Avec ces commentaires et pratiques, il devient clair, je l'espère, que le binôme haut-bas-montagne-chapelle n'implique aucune hiérarchie ou préférence entre les niveaux, mais qu'il confirme plutôt qu'il s'agit là de foyers de puissance hétérogène qui sont coactivés grâce au travail simultané des humains. Et on n'est pas ici dans une religion de rédemption, mais plutôt dans une dévotion engagée dans un effort constant de mettre en relation explicite, dans un seul espace, social, politique et cultuel, des univers conçus localement comme ontologiquement distincts et distingués sur le plan temporel. Et l'action de combiner les forces et les dons de chacun, d'origine chrétienne ou autochtone, permet finalement d'activer la convivialité humaine et non humaine, garante du fonctionnement de la communauté. Mais il ne s'agit pas d'affirmer ici que les protagonistes vivent dans deux mondes, chrétiens et païens, qu'ils tenteraient de réunir en un seul à travers leur ritualité, mais plutôt que le processus colonial répressif, duquel ils sont les héritiers, a créé dans leur univers des éléments contradictoires qu'ils tentent d'organiser dans leur rite de manière dualiste, mais non binaire exclusive, et complémentaire. Et ce mécanisme procède d'une manière active et constamment actualisée, propre aux acteurs sociaux, à l'organisation de leur monde en combinant ces éléments distincts tout en les distinguant. Donc l'approche combinariste locale se fonde ainsi sur la coexistence activée d'éléments distingués explicitement. Et contrairement aux termes de syncrétisme, métissage ou d'hybridité qui sont souvent employés dans ces contextes et qui procèdent plutôt d'une constatation et d'une vision unidirectionnelle et externe, ce terme émique, donc interne, combinage, employé par les propres acteurs sociaux, implique une agentivité consciente des protagonistes impliqués dans cette interaction cultuelle. Et il exprime leur façon particulière de gérer les discontinuités en traçant entre elles des formes de communicabilité. Et cette gestion locale s'inscrit dans le changement historique et traduit un mode autochtone de l'accepter, voire de le revendiquer. Et finalement, au cours de la fête, on va le voir tout de suite dans le film, l'activation de ces différents foyers, donc chapelle, montagne, œuvre pour qu'ils acquièrent une hétéronomie, c'est-à-dire qu'ils puissent fonctionner en écho, permettant d'une certaine façon d'abolir la relation de subordination-domination issue de la contradiction ou de la bipolarisation qui a été introduite par l'ordre colonial entre religions autochtones et chrétiennes. Et dans la fête patronale de la Esperanza, on va voir donc comment se déploie tout l'art local de combiner. Donc, merci de votre écoute. Et, donc on va passer pour voir 10 minutes, un petit film. Et je vous montre dans les photos, ces photos-là, donc c'est une séquence qu'on ne voit pas dans le film. On est donc le 15 août, le dernier jour de la fête patronale. Et avant l'ascension au sommet, on va déposer l'offrande qui va être montée à la montagne. On la dépose donc devant l'autel de la chapelle. C'est un moment très solennel. Il est accompagné par les musiciens du village. Et à partir de là, on monte vers la montagne. Donc, je vais essayer de récupérer le film. Alors, comment on fait ? Alors, suspense. Alors, excusez-moi, j'ai oublié, il n'y a pas de sous-titres parce qu'il s'agit là de ce qu'on appelle un ours dans le langage cinématographique. C'est un film qui a été filmé cet été avec Patrick Dehay, qui est un anthropologue cinéaste. Donc on a été au village pour filmer la fête patronale et qu'on va essayer d'en faire un film. Et donc là, ce sont des bout à bout, c'est donc pas encore monté. Et donc pas traduit non plus, donc pour les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol ou le nahuatl, en gros, ce qu'on va entendre dire le spécialiste rituel au sommet de la montagne, donc il présente en espagnol ce qu'ils font, le rituel, il dit qu'il est envoyé par les autorités politiques du village pour faire ce rituel au nom de tout le monde. Il parle donc aux saints catholiques, d'abord en espagnol, il dit que c'est la coutume des ancêtres, il explique qu'avant la croix qui se trouve, mais on ne va pas la voir, elle n'existait pas, mais que maintenant elle est là aussi, et il dit explicitement aussi, on va compléter en haut ce qui est en train de se passer en bas. Et un peu plus tard, il va parler en nahuatl aux esprits de la terre. Il va leur dire plus ou moins la même chose. Il dit qu'il se présente aux esprits de la terre. Il parle aux montagnes tout autour. Et il parle de la nourriture qui est déposée pour eux pour continuer donc, l'échange et qu'ils vont continuer à travailler ensemble toute l'année. Voilà, donc on va regarder donc le début de l'ascension et ce qui suit.
¿Aquí?
¿De este lado ya?
¿Así?
¿En medio?
¿Todo va a ser en medio?
Ahora ese. Aquí vamos a parar el copal.
¿Te metieron copal ahí?
¿Eh?
¿Te dieron copal?
Sí. Abajo de la canasta también trajeron.
Este pulo, este grande, acá de este lado.
¿Está bien? Dana. Dana, ven acá. Ayelen. Ayelen.
En este cerro, aquí le esta costumbre que nos dejaron nuestros padres, los abuelitos, este lo hicimos también después, pero antes no había este, pero como ahora les doy muchas gracias lo que me visitan, uh-huh, aquí. Sí, vamos a probar una probadita de este. Ajá. Nos vamos a completar ya. Ajá. Así. Y así, Padre Señor San Antonio de Padua, tú eres mi jefe, tú eres mi patrón, tú eres que dan mi don para defender a la gente, para enfrentarme con el sueño de la tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y amén. Y así, Padre Señor San Antonio de Padua, aquí me ha mandado la gente, en el poblado de la Esperanza, en mi rancho, aquí, yo como tú me mandaste en este mundo, para curandero, para defender, para enfrentarme con el Señor bueno de la tierra. Aquí estoy presente en este glorioso día 15 de agosto, que están festejando nuestro promete en el sur del poblado. Aquí, Padre San Antonio de Padua, escúchame. Y que me lo reciba, y que lo reciba ese Señor, que salga muy feliz, muy triunfante, para que mañana pasado, lo más que no van a, que no hubo, o no hemos venido, o no hemos cumplido, Padre. Así me mandó toda la gente, las autoridades, Padre mío, y así todos mis hermanitos, hermanitas, todos mis jovencitos, que me ha acompañado, Padre, aquí, todos, aquí yo, aquí. Como en la iglesia, como piden los rezanderos, no nomás para la esperanza. Si aquí es esa relación, este, la casa, y ese se hace en general para toda la gente que nos visite, que no nos visite, por eso pedimos la bendición, pedimos el favor con el Padre, porque así es, porque no con nuestro Padre mío. Yo, por eso yo que me ha mandado la gente aquí, pues ese se pide para todo el mundo, una bendición. Cada quien, por donde quiera, tiene que ser puesta libres, caminos libres. Cada quien que no sea una desgracia en su camino, en su carrito. Así se pide. Y por eso yo me he mandado aquí así. Sí, ahora. En Aguat. No chamo Juante, en Jecatine, a mi Juante, mau estás tecme, ni cano, guan, necesitas la gente, ni cano, guan, tocas hermanitos, ay Dios, quima con bendición, tocas quima cuitlawis, que noche te cacé, ni cano, ni quima cacé barrido, porque tías te haces, a mi Juante, en Tlastecme, le Juante te pechan, es que a mí mentado, aquí cerro la esperanza, ese es mentado.
Y así te lo pido, Padre, Señor, Estampicuate y Madrecita Virgen, quita el balón. Suerte, hermanita, se fue toda una bendición, donde vea la tranquilidad, la felicidad, Padre.
Thank you.
Merci à Nat pour cet exposé très riche, stimulant et qui pose au fond de façon très nette la question des conditions d'hybridation différentes en fonction des contextes socioculturels, disons. En t'écoutant, j'avais presque constamment à l'esprit la monographie de Nathan Vachtel, que tu connais bien sûr, sur les chipayas de Bolivie, pour différentes raisons, mais en particulier parce que Nathan Vachtel décrit dans les rites que les chipayas, qui sont une petite population isolée dans les hautes terres de Bolivie, et qui ont une vie rituelle intense dans laquelle sont combinés, exactement comme dans ce cas ici, des saints, des santos, qui sont adorés dans des oratoires, et puis des divinités andines qui sont adorées dans des petites constructions en adobe, des coniques. D'un côté, il y a les silos, et de l'autre côté, il y a les malkus. Les malkus sont les divinités andines, les silos, ce sont des cielos, c'est-à-dire ce sont des saints qui sont incorporés aussi dans ces oratoires. Et Nathan Vachtel dit très explicitement le rôle du rituel chez les chipayas, c'est de faire travailler ensemble les divinités d'abord, et ensuite les divinités et les humains. C'est-à-dire que dans cette constellation d'entités, de métapersonnes qui ont en charge, au fond, le bien-être ou le malheur des chipayas, puisque chacune de ces divinités contrôle en somme un secteur de la pratique, hein, c'est-à-dire c'est l'élevage, c'est, ou c'est la santé, ou c'est la pêche, ou c'est, etc. Et donc il faut que tout, pour qu'une vie harmonieuse puisse se déployer, il faut que toutes ces entités puissent collaborer ensemble, alors que dans le système chipaya, ce qui n'est pas le cas dans celui que tu viens de nous présenter, il y a une division très centrale entre deux moitiés, chaque moitié est répartie en deux sections, etc. Et donc il y a une division profonde et complexe, comme il peut y avoir aussi en Mésoamérique, mais pas dans le cas Nahua que tu nous présentes, entre différents secteurs d'activité, différents groupes de population à l'intérieur de cet ensemble. Il faut donc que tout puisse être combinado. Et donc, cette analogie que j'avais à l'esprit en t'entendant, et qui est par ailleurs, comme tu l'as évoqué à propos du travail de Pitrou chez les Totonac, chez les Micré, pardon, je confonds avec Ellison, chez les Micré, aussi un travail de... Alors lui, il appelle ça de la coactivation, de combinaison, au fond, de mouvements engendrés de façon à ce qu'il y ait collaboration à la fois entre les entités non humaines et puis les humains, c'est quelque chose qui est très caractéristique, au fond, des civilisations, des hautes terres, d'Amérique du Sud, dans la zone andine, et du Mexique et d'Amérique centrale. Et la question que ça pose, bien évidemment, c'est... Dans ce cas-là, ce qu'on appelle l'hybridation, tu as eu bien fait d'insister sur le fait qu'il vaut mieux parler de processus que de résultat. Dans le travail de coactivation, de combinaison, de travail ensemble, il y a quelque chose qui est très caractéristique de ces civilisations et qui font que ce qu'on appelle habituellement le syncrétisme, c'est-à-dire l'arrivée de pratiques, d'idéologies, de divinités, etc., extérieures. Évidemment, ça constitue un bouleversement, mais néanmoins, la capacité d'absorber ce bouleversement était probablement moins... Était, était plus facile, d'une certaine façon, moins difficile, que ce ne l'a été, par exemple, dans le cas que Maurice Godelier nous exposait la semaine dernière, chez les Barouillas. Alors pourquoi ? Alors moi, l'hypothèse que j'ai faite, et tu la connais, c'est qu'on se trouve face à des systèmes que j'ai appelés analogistes, et que le principe même du système analogiste est que, précisément, il s'agit de combiner, hein, de composer, avec une multiplicité d'éléments du monde, une multiplicité de divinités, de singularités, etc., par des procédures qui sont assez souvent des procédures rituelles ou bien des procédures de connexion symbolique, on peut appeler ça si on veut, c'est-à-dire il s'agit d'établir des correspondances entre des éléments du monde qui, en première approximation, paraissent disjoints. Donc lorsque, évidemment, le christianisme est apparu, ce qui est apparu au premier plan, c'est la multiplicité des manifestations en dépit du travail du clergé pour essayer de lutter contre l'idolâtrisation de cette multiplicité, c'est-à-dire les saints, la Vierge, l'Esprit Saint, etc. On retrouvait la diversité au fond de ces métapersonnes et pouvait se les approprier. Et donc, sans nier bien évidemment les profonds bouleversements que la colonisation de l'imaginaire, que la domination, l'expropriation, la domination politique, etc., ont engendré, il y a peut-être une plus grande souplesse, une plus grande capacité d'absorber et de recombiner à l'intérieur de systèmes qui déjà étaient des systèmes combinatoires auparavant, comme ceux que tu viens de décrire, qu'il n'y a dans d'autres régions du monde. Et je pense en particulier, on avait le cas de la Nouvelle-Guinée, évidemment, la semaine dernière, mais à l'Amazonie aussi. L'Amazonie n'avait pas ces capacités combinatoires. Et donc, on a en Amazonie ces mouvements qui, comme Maurice Godelier l'a décrit pour la Nouvelle-Guinée, de conversion massif à l'évangélisme de gens qui, 20 ans après les premiers contacts, décident de tout abandonner, de ne plus se souvenir de rien, de devenir tous des évangélistes. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour cela. Mais c'est des phénomènes qui ne sont pas complètement inconnus en Mésoamérique aussi. On a la conversion à l'évangélisme est quelque chose d'assez courant. Mais néanmoins, au fil du temps, et en dépit de l'effort que tu évoquais tout à l'heure, de la re-christianisation par le clergé au cours de ces dernières décennies, ça ne marche pas très bien parce que cette capacité à combiner, elle est là depuis très longtemps et je pense qu'elle va être là encore pendant très longtemps. Donc, d'une certaine façon, les cas que tu nous présentes, et c'est pour ça que le Mexique Amérique centrale, mais aussi les Andes, sont pour moi un peu porteurs d'espoir, en ce sens qu'ils sont porteurs d'une inventivité culturelle et sociale extraordinaire, et qu'on n'a pas le sentiment, en somme, qu'on peut avoir par ailleurs, encore une fois, je pense à la Nouvelle-Guinée, pour le cas de la semaine dernière, d'un rouleau compresseur destructeur, en quelque sorte, qui vient en très peu de temps saper tous les fondements de ce qu'un collectif, au fond, avait tenu pour plus important et qu'il avait permis de vivre jusqu'à présent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de cette façon de voir, c'est-à-dire, au fond, je ne sais pas si c'est l'analogisme en général, peu importe, mais en tout cas, c'est une constante, encore une fois,
tout à fait.
Le combinar, la coactivation, le travail ensemble, etc., et qui explique cette extraordinaire capacité de phagocyter, au fond, ce qui est arrivé de l'extérieur dans ces communautés des hautes terres, des Andes et du Mexique, qui ont présenté, comme tu l'as bien vu et bien montré, beaucoup de points communs.
Oui, je pense qu'il y a un point important qu'il faut rappeler, c'est que ces sociétés, quand elles ont été conquises, donc sociétés mexicaines, andines, elles avaient déjà ce principe de divinité, de dieu, des cultes, etc. Donc, quand les évangélisateurs ont introduit de nouvelles façons de rendre des cultes, ce n'était pas complètement une nouveauté. Enfin, c'était une autre façon de voir les choses. Mais, et donc, il y avait déjà une place pour cette idée de divinité, etc. Et je pense que c'est la grande différence avec les sociétés amazoniennes et autres dont tu as parlé. C'est que là, on est dans une certaine continuité ou dans des variantes autour de ce qu'on appelle une croyance transcendante. Donc, ce qui explique, je pense, cette capacité combinatoire, il y a cette ce que tu as appelé l'analogisme, il s'applique parfaitement pour le cas que je viens de présenter, et aussi pour dans toute cette région. Il y a cette façon d'intégrer, de trouver une place pour chaque nouveauté dans un système déjà existant, et ce qui permet donc cette souplesse, ce qui explique sans doute, en tout cas pour les sociétés qui existent toujours, qu'elles sont là et qu'elles ont gardé une certaine spécificité. C'est vrai que si on rentre dans le village de la Esperanza sans être anthropologue et qu'on regarde un peu ce qui se passe, on n'a pas l'impression spécifiquement qu'il s'agit d'un groupe indien, on dirait paysan, rural, etc. Mais bon, donc, dès qu'on commence un peu à s'intégrer dans la société, on voit qu'il y a une façon un peu différente. On n'est pas complètement dépaysé, hein, mais il y a des moments qui sont assez récurrents donc, de ces rites qui expriment une autre façon de voir le monde, tout en étant parfaitement dans la contemporanéité, dans la modernité. Certaines personnes que vous avez vues dans le film elles sont experts comptables, éventuellement avocats, etc., etc. Donc, mais elles ont gardé cet esprit de qu'il y a un monde au-delà de ce qu'on connaît dans le monde non indien. Alors, je dirais qu'il y a, ces sociétés ont gardé cet esprit pendant plus de 5 siècles, il y a peut-être quand même un certain danger, parce que, ou peut-être pas un danger, mais il y aura à mon avis une transformation qui va se faire, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de paysans. C'est-à-dire que toute cette relation qu'on a avec les entités de la terre, on donne à manger à la terre parce que la terre nous donne à manger. C'est quelque chose qui est en déclin par des processus de migration, parce que les jeunes ne veulent plus travailler au soleil, etc. Mais les jeunes actuels, en tout cas, reviennent pour la fête patronale. Donc, c'est encore quelque chose qui est important pour eux. Alors, il se peut que, s'il y a de moins en moins de paysans, je pense que ces rituels ne vont pas disparaître. Ils vont se transformer. Ils vont peut-être rester comme du folklore, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas uniquement une relation avec les entités de la Terre. C'était un complexe donc, social, comme j'ai essayé de le montrer aujourd'hui. Et donc, la relation, l'idée de communauté, elle est pour l'instant encore très, très présente. Et donc, pour l'instant, c'est ça qui donne la force à tout cet ensemble. Et les entités non humaines, elles sont intégrées dans le lien social. Je suis allée passer une petite semaine chez les jeunes qui habitent sur la frontière avec les États-Unis, qui sont donc partis travailler dans les usines, pour voir un peu comment ça se passe chez eux. Alors déjà, ils appellent leur quartier La Esperanza. Mmh. Donc il y a un lien très, très clair avec leur village d'origine. Et ils n'arrêtent pas d'avoir des relations d'entraide entre les familles, entre les jeunes. Et puis, ils font venir les guérisseurs du village pour continuer à faire des pratiques rituels. Ou parfois, les guérisseurs au village font des rituels de guérison par téléphone. Donc, eux, ils restent au village, mais le patient se trouve sur la frontière des États-Unis. Et donc, pour l'instant, il y a une continuité dans tout ce complexe rituel et social.
Il y a une chose qui est très frappante dans ces systèmes sociocosmiques, disons, andins et mexicains. C'est le fait, effectivement, que tu parlais du maintien de l'ordre cosmique par les cérémonies dans la montagne, dans la chapelle, etc. Mais on voit l'investissement massif, au fond, de la communauté comme communauté, avec des frontières qui sont en fait indécises entre la communauté sociale et le monde. Et dans bien des régions où ce système domine, encore une fois, dans les Andes et en Mésoamérique, ce caractère cohésif de la communauté est rendu possible par des institutions du type de celles que j'évoquais tout à l'heure à propos des Chipayas, qu'on trouve partout, c'est-à-dire des formes de segmentation interne et la nécessité que les différents segments coopèrent à certains moments de l'année, notamment dans les activités rituelles, travaillent, combinent ensemble à certains moments de l'année. Et on a ça au Mexique, c'est très aussi le système des quatre poules, des toutes sortes de segmentations internes avec au fond, c'est comme un Lego, ou même plus, c'est comme un puzzle dans lequel les parties sont étroitement imbriquées. Ce n'est pas le cas, à l'évidence, dans la communauté de la Esperanza. Il semble que ce soit moins le cas chez les Nahuas, d'une manière générale. Qu'est-ce qui, à ton sens, fait que cette communauté, en dépit de la migration et du fait qu'il n'y a pas ces éléments intermédiaires, ce système segmentaire intermédiaire, la communauté persiste, pour le moment en tout cas?
Oui, alors je pense qu'il y a d'abord la question du nombre. C'est une toute petite communauté. Commencer à la segmenter, ça sera encore plus petit. Je pense que ce n'est pas possible. Mais justement, cette dimension très restreinte de cette communauté, je pense que c'est ce qui la maintient, en fait. Parce que, d'abord, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Donc, les gens sont catholiques dans cette communauté. Alors que tout autour, il y a des évangélistes qui commencent à arriver, qui ont converti pas mal de monde tout autour. Et la Esperanza est l'un des villages qui ne s'est pas converti. Et on n'aime pas les évangélistes. Et quand ils viennent visiter pour essayer de convertir le monde, on les accueille parce qu'on est des gens accueillants, mais on va leur dire de partir très vite. Il y a quelques personnes au village qui se sont converties finalement, des jeunes, mais du coup, ils sont partis du village.
Ah oui.
C'est-à-dire, je pense que c'est impossible au village d'avoir des éléments qui ne participent pas à tout ce système socio-cosmique. C'est pas possible parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est un travail, pas seulement au niveau symbolique, mais concrètement, c'est énormément de travail tout le temps, et surtout pour cette grande fête patronale qui est la fête pour le bien-être du village. Et si quelques personnes ne participent pas, c'est pas possible. Donc il y a vraiment une pression sociale pour impliquer tout le monde, et ceux qui ne veulent pas participer s'en vont.
Tu disais qu'il n'y a pas de système de cargos, mais néanmoins, il y a des comités, des fêtes qui jouent un peu le rôle qu'ailleurs, soit au Mexique, soit dans les Andes, jouent les cargos, c'est-à-dire c'est des gens qui sont titulaires d'une charge civile ou rituelle ou religieuse pendant un an. Ça leur coûte très cher parce qu'ils sont obligés de payer des fêtes civiques ou rituelles. Indépendamment du mécanisme de nivellement qu'on a interprété, au moyen duquel on a interprété le système des cargos, c'est ce qui permet aussi, au fond, à travers ces personnes, que la communauté se sente engagée, au fond, dans ce système-là. Il n'y a pas cela, mais il y a quand même un comité qui, à l'évidence, joue un rôle très important. Et comment est-il... est-ce que ce sont des élections, c'est volontaire? Est-ce qu'on est présenté? Parce que ça joue un rôle très important. On peut vouloir se défiler aussi de ce genre de charge.
Alors, c'est en effet un autre type de système, mais qui est un système de charge, mais une variante, on va dire. Ces comités, il n'y a pas seulement le comité de fête, il y a des comités pour plein de choses dans le village, pour le fonctionnement du village. Alors, il y a l'autorité officielle, qu'on appelle l'agent spécial. Il est élu par l'ensemble des pères de famille. Et puis, c'est une fonction qui dure 3 ans, en parallèle à la fonction du maire du district. C'est-à-dire que ce sont des fonctions officielles et reconnues par l'État. Et à partir de là, commence à s'organiser des comités. Donc, ça peut être le comité pour l'école, le comité pour las mejoras, donc pour l'amélioration des édifices publics, etc. Mais les comités les plus importants, c'est le comité de la fête. Il y a donc un comité de femmes et un comité d'hommes. Et ces comités sont élus par pression, on va dire, sociale. Ça tourne entre tout le monde. Ils durent pendant 2 ans. Enfin, c'est des comités pour 2 ans. Et tout le monde passe par là. C'est-à-dire...
Oui. Voilà. Donc c'est quand même un peu assez proche du système des cargos.
Oui, tout à fait. Sauf que ce n'est pas une charge personnelle, oui. Mais c'est réparti entre tout le monde. Donc ça s'appelle cost sharing en anglais. Voilà. Et du coup, c'est un système qui intègre tout le monde. Il n'y a pas une histoire de nivellement, c'est parce qu'en plus, tous les membres de la comité doivent payer une... coopération une fois par an pour la fête. Donc, elle est égalitaire et en plus, il y a les comités qui font travailler les autres. Les comités organisent, mais ils font travailler tout le monde. Donc, c'est vraiment un système intégratif.
Je ne vais pas monopoliser les questions. Je pense qu'il doit y en avoir.